vous écoutez France Inter et vous faites bien. Il est 13h. Voici le journal avec Sarah Guibaudeau, bonjour.
Bonjour. Les couples de femmes et les femmes célibataires pourront avoir des enfants grâce à la PMA. Le projet de loi sur la bioéthique est présenté en Conseil des ministres. Explication de Sandy Dauphin. À droite, le texte divise. Guillaume Larrivé, candidat à la présidence du parti LR, votera contre. La canicule s'étend encore à quasiment toute la France. Sébastien Léas, beaucoup de régions dans la fournaise cet après-midi.
Oui, la majeure partie du pays est concernée par cette vague de chaleur avec une vigilance orange canicule sur 80 départements. Cet après-midi, le mercure grimpera généralement entre 36 et 40 degrés avec des pointes jusqu'à 42 degrés sur une large moitié est. Prévoyez des températures un petit peu plus modérées sur la façade ouest et autour de la Méditerranée avec 31 à 36 degrés. Côté ciel, c'est surtout le soleil, mais il faut s'attendre à quelques développements d'averses localement orageuses en montagne.
Et nous verrons avec vous si la météo de cet été 2019 est déjà exceptionnelle ou juste un avant-goût des étés à venir. Le gouvernement veut prélever 500 millions d'euros sur le fonds patronal Action Logement, un acteur majeur du logement social et intermédiaire. Mais qui dispose d'une énorme cagnotte, Claire Chaudière.
Oui, plus de 80 milliards d'euros, c'est le bilan comptable qu'a publié il y a deux semaines à peine l'organisme paritaire et on va voir que le gouvernement s'intéresse à la gestion de ces fonds très importants.
Une éolienne géante fabriquée à Saint-Nazaire, 260 mètres de haut, c'est entre la Tour Eiffel et la Tour Montparnasse, pour vous donner une idée, elle sera installée aux Pays-Bas. À Londres, Boris Johnson choisit ses futurs ministres, plutôt des partisans d'un Brexit dur, nous dira Antoine Gignot, et à l'heure du Brexit, le Royaume-Uni en appelle à la solidarité européenne. Face à la menace de l'Iran, une force navale est en train de se dessiner pour protéger les navires dans le détroit d'Ormuz. Jusqu'où iront les coureurs français? Nous retrouverons Fanny Lechevestrier sur le Tour de France, entre le pont du Gard et Gap.
France Inter.
C'était une promesse de campagne, plusieurs fois reportée, et ce sera donc la première grande réforme de société du quinquennat d'Emmanuel Macron. La PMA pour toutes les femmes, lesbiennes ou célibataires, enjeu éthique, médical, juridique, avec la filiation. Le projet de loi est porté par trois ministres, Agnès Buzyn pour la santé, Nicole Belloubet pour la justice, Frédéric Vidal pour la recherche. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Dites-nous précisément combien de femmes seraient concernées et à quelles conditions?
Écoutez, jusqu'à présent, la procréation médicalement assistée était réservée aux couples hétérosexuels souffrant d'infertilité. Elle sera étendue aux couples de femmes et aux femmes célibataires. D'après les études d'impact du ministère de la Santé, cela pourrait concerner 2000 femmes par an. Ces PMA seront entièrement prises en charge par la Sécurité sociale, comme elles le sont pour les couples hétérosexuels.
Petite révolution aussi, la reconnaissance de la filiation.
Oui, les couples de femmes ayant recours à une PMA avec don de sperme devront signer une déclaration commune anticipée devant le notaire avant la naissance de l'enfant. Elles sont ainsi reconnues comme parents au même moment et cette déclaration sera mentionnée dans l'acte intégral de naissance.
Une autre innovation, elle concerne les femmes qui font des enfants tard.
Oui, le projet de loi va autoriser les jeunes femmes à faire congeler leurs ovocytes pour les réutiliser plus tard. Cela répond à une demande sociétale. Aujourd'hui, les femmes font des enfants de plus en plus tard. Or, à partir de 35 ans, la fertilité baisse de manière assez brutale. Cette autoconservation des ovocytes existe déjà dans certains cas particuliers, comme la maladie. Elle est également autorisée pour les donneuses d'ovocytes qui n'ont pas d'enfants. Elles pouvaient jusqu'à présent conserver des ovocytes pour plus tard pour elles. Mais ce dispositif va donc être assoupli.
Merci Sandy Dauphin. Pour les enfants nés de PMA et curieux de connaître leurs origines, le texte prévoit à 18 ans d'accéder à quelques informations comme l'âge du donneur, le nom du père biologique ne pourra être révélé qu'à condition que le donneur ait donné son accord. Le stock de gamètes existants sera d'ailleurs détruit à l'entrée en vigueur de la loi. Le texte sera discuté dès la rentrée au Parlement. Le gouvernement veut croire que les mentalités ont évolué, qu'il s'agit de s'adapter aux réalités de la famille française. Il faut quand même s'attendre à une forte opposition à droite. Christian Jacob, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée, ne donnera pas de consigne de vote. Cela touche à l'intime de chacun, dit-il dans Le Parisien. Pas d'accord. Le député Guillaume Larrivé, également candidat à la présidence du parti LR, il craint un glissement vers l'eugénisme ou la GPA, l'utilisation de mères porteuses.
Comme législateur, nous avons le devoir de fixer des limites à ce qui serait des tentations démiurgiques. Je veux pas que dans quelques années, on se réveille hagard dans un monde transhumaniste où l'on créerait des bébés sur mesure en méconnaissant au fond la nature même de l'humanité. C'est une inquiétude vraiment qui m'habite et qui me conduira en conscience à l'automne à voter contre les articles de cette loi loi autorisant la PMA sans père. Et je continuerai aussi, bien sûr, à refuser toute évolution vers la gestation pour autrui, la GPA, qui méconnaîtrait profondément la dignité de la personne humaine.
Il n'en est pas question, lui répond la ministre de la Santé, Agnès Buzyn.
La loi aujourd'hui ne permet aucun élargissement de l'accès à des tests génétiques. La France s'oppose à ce type de test, justement pour éviter d'abord que nos concitoyens aient des informations erronées dont ils ne sauraient pas quoi faire en termes de risque de maladie, puisqu'aujourd'hui ces informations sont très peu robustes. Et deuxièmement, pour éviter toute dérive eugénique, justement, c'est un point auquel nous sommes extrêmement vigilants. Donc, je pense que les propos de Monsieur Larrivé prouvent justement que soit il n'a pas lu la loi, ce qui est probable parce qu'elle n'est pas encore publiée
au Parlement.
Et deuxièmement, justement, que nous avons veillé à ce qu'il n'y ait aucun risque de ce côté-là.
Agnès Buzyn et Guillaume Larrivé ce matin sur France Inter avec Frédéric Mettezeau. La ministre de la Santé qui doit tenir en début d'après-midi une conférence de presse sur la canicule. Des départements pourraient être placés en alerte rouge, comme au mois de juin, ce qui avait entraîné l'annulation d'événements sportifs. Une grande partie de la France devrait voir le mercure flirter avec les 40 degrés cet après-midi. Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Sarah, bonjour à tous.
Vous allez nous donner vos prévisions comme d'habitude en fin de journal, mais revenons d'abord un peu avec vous sur cette nouvelle vague de chaleur. On a battu des records hier.
Oui, des records de chaleur qui ont été battus principalement sur les régions de l'Ouest, notamment Bordeaux qui a battu son record historique qui datait de 2003. On a eu également Angers qui a battu son record. Et puis des villes qui ont même dépassé pour la première fois les 40 degrés comme Blois, Tours, Rennes et au Havre également. Il a fait extrêmement chaud hier, jusqu'à presque 37 degrés.
Et ce n'est pas encore le plus chaud.
Non, c'est pas encore le plus chaud. Alors les régions les plus à l'Ouest vont avoir de l'air un petit peu plus frais enfin, au moins de la chaleur un peu plus modérée pour cet après-midi avec 31 à 36 degrés. Mais la chaleur va progressivement se décaler et s'intensifier sur les régions de la moitié est. Aujourd'hui, on attend 36 à 40, 42 degrés. Et puis demain, ce sera au niveau national des températures qui seront extrêmement élevées. On battra encore des records qui n'ont pas forcément été encore battus, y compris sur la vague du mois de juin. Donc parmi les records qui peuvent être battus, le record de Paris peut également être battu. Pour l'instant, on n'a atteint qu'une seule fois plus de 40 degrés. C'était en 1947. On attend 42 degrés demain.
Alors cet été 2019, est-il déjà exceptionnel ou pas ?
Évidemment qu'il est déjà exceptionnel, les records tombent les uns après les autres, on a déjà même battu le record historique au mois de juin, ce qui était extrêmement tôt en plus pour la saison, puisqu'il a fait 46 degrés, l'ancien record était de 44,1 degrés, donc on a explosé même l'ancien record historique, et puis on a effectivement cette succession de vagues de chaleur, au moins de température extrêmement chaude. Il faut savoir que en météorologie, on compte l'été entre les mois de juin, juillet et août. Il avait commencé de manière extrêmement chaude déjà au tout début juin, et puis après on avait une période un petit peu plus fraîche. Mais depuis le 21 juin, en fait, les températures sont restées quasiment tout le temps au-dessus des valeurs de saison, avec effectivement ces deux vagues de chaleur très très intenses, plus courtes sur la durée que 2003, puisque la première a duré à peu près une semaine et celle-là dure à peu près 5 jours. Mais effectivement, on est sur un été extrêmement chaud et remarquable. Il fera date. Ouais.
Merci Sébastien Léas, on vous retrouve dans quelques minutes. Au mois de juin, certaines municipalités avaient décidé, au pic de la canicule, de fermer des écoles. Le brevet des collèges avait été reporté. La question n'a pas été posée à ce stade pour les centres de loisirs qui font tout pour préserver les enfants de la chaleur. Le reportage de Maureen Suignard à l'école Guy Moquet d'Ivry-sur-Seine.
Pourquoi on mouille la nuque quand tu rentres dans l'eau dans une piscine ?
La chaleur au cœur de toutes les discussions dans ce centre aéré situé dans une école. En juin dernier, elle avait été fermée pendant 2 jours à cause de la chaleur. 39 degrés sont attendus aujourd'hui, mais cette fois, les enfants sont les bienvenus.
Le fait qu'on ait moins d'enfants que quand c'est l'école, c'est ça qui nous soulage en fait.
Martine Chevalier, la directrice du centre aéré.
Je suis persuadée que les enfants, ils sont mieux ici au centre de loisirs que dans les vieux immeubles qui sont en plein soleil où ils n'ont pas de place pour jouer. Hein.
Une école moderne qui respecte les critères de haute qualité environnementale et pourtant les enfants ont l'interdiction de rester dans les étages supérieurs.
Ici, ça c'est très chaud. C'est qu'une verrière.
La température peut grimper.
Ah là, la température elle monte très vite.
Pour préserver les enfants de la chaleur, les activités ont lieu plutôt le matin, des temps calmes sont organisés dans des salles fraîches.
Et puis ensuite, les fins d'après-midi à partir de 15h, c'est joli.
J'adore l'eau, ça nous rafraîchit parce que là j'ai déjà chaud, ça va me faire du bien.
Il fait chaud, ils se rafraîchissent un petit peu.
Kevin, un animateur du centre aéré.
Ouais, c'est un moment qu'ils attendent. Ça serait compliqué avec entre 50 et 70 enfants restés enfermés dans des salles. C'est compliqué pour eux et pour nous.
Des jeux organisés tous les jours puisque toutes les sorties sont annulées.
Face au risque de pollution à l'ozone, c'est au tour de Strasbourg d'activer la circulation différenciée à partir de demain. Seuls les véhicules munis de vignettes critères 0 à 3 seront autorisés à rouler. La mesure est reconduite demain à Paris, mais de manière plus stricte, seules les vignettes 0 à 2 toujours peuvent sortir du garage. Au moment où l'on parle plus que jamais de chercher des énergies renouvelables, à quoi ressembleront-elles demain? À Saint-Nazaire, un projet d'éolienne géante a été présenté par l'usine General Electric, la plus puissante jamais construite, 260 mètres de haut, Clémentine Sabrier.
Imaginez la tour Montparnasse, mais regardez encore plus haut. La nouvelle éolienne en mer, Aliad X, va la dépasser de 50 mètres. Ses pales auront l'envergure d'un terrain de foot. Jérôme Pécresse est le président du secteur énergie renouvelable chez General Electric.
C'est clairement un saut technologique majeur en termes de taille, en termes de puissance et de facteur de charge, qui va permettre de continuer à faire des projets éoliens en mer à des coûts de l'électricité de plus en plus compétitifs.
Il estime d'ailleurs que le coût de production de l'électricité sera 3 fois plus bas que pour l'éolien en mer actuel. Tout ça parce que l'éolienne géante crée plus d'énergie d'un coup, assez pour alimenter 16 000 foyers. Jérôme Pécresse planifie déjà le nombre d'Aliad X qui pourraient être construites.
On a vocation à en produire pour, je dirais, au moins 2 projets par an, et donc entre 50 et 100 éoliennes par an sur ce site de Saint-Nazaire.
La production en série devrait commencer dans 1 an dans l'usine de Saint-Nazaire qui compte en ce moment 200 salariés. Leur nombre va augmenter, explique le directeur du site, Jean-Michel Obadia.
On va dépasser les 500 personnes sur le site.
Mais avant ça, il faut réaménager l'usine, selon Jérôme Pécresse.
Nous allons investir ici à Saint-Nazaire 40 millions d'euros pour la reconversion de ce site industriel des éoliennes de 6 mégawatts vers la production de série des éoliennes de 12 mégawatts.
General Electric attend une certification pour pouvoir installer ces éoliennes dans des parcs maritimes. Elles devraient arriver d'ici 1 an au terme de la phase test.
Clémentine Sabrier de France Bleu Loire-Océan. Cette éolienne sera donc testée aux Pays-Bas. En France, le premier parc éolien en mer est en projet au large de la Loire-Atlantique, mais ne devrait pas compter d'appareils aussi grands. À l'heure où Bercy doit boucler le budget de l'année prochaine, le gouvernement lorgne encore une fois vers Action Logement. Il veut ponctionner 500 millions d'euros du fonds pour l'aide au logement des salariés financé par les cotisations patronales. C'est ce qu'on appelait avant le 1% logement. Il est assis sur d'immenses réserves. Sa gestion a souvent été critiqué par le passé. Claire Chaudière, bonjour.
Bonjour.
Et le gouvernement met encore la pression.
Oui, nouvelle mise à contribution d'un demi-milliard d'euros pour financer la politique du logement et parallèlement, lancement d'une mission de l'Inspection Générale des Finances sur la gouvernance d'Action Logement, information que confirme Bercy. Dans le collimateur des pouvoirs publics, la gestion de l'organisme qui collecte les cotisations des entreprises en faveur du logement, pilotée de manière paritaire par des représentants du patronat et des syndicats. Il faut dire que la cagnotte sur laquelle est assise Action Logement a de quoi faire tourner la tête. Bilan comptable publié début juillet, 83 milliards d'euros, dont 55 milliards de patrimoine et près de 8 milliards de trésorerie. Des chiffres rendus publics pour la première fois cette année, après une importante réforme de l'organisme. Anticipant d'éventuelles critiques sur la sous-utilisation de cet argent, Action Logement a annoncé en février dernier un grand plan pour le logement des salariés modestes. 9 milliards d'euros d'investissement qui démarreront en septembre. Pas de quoi convaincre malgré tout le gouvernement. Mis devant le fait accompli, commente un fin connaisseur du secteur, la pilule serait même très mal passée. Et tout ça n'est probablement pas sans rapport avec ce qui se joue cet été.
Merci Claire Chaudière. À l'Assemblée nationale, les députés La République En Marche ont finalement opté pour la continuité. Le parti avait promis de renouveler les postes au bout de 2 ans, président de commission ou président de groupe. Le vote a commencé hier et se poursuit aujourd'hui. Mais la tendance est à la reconduction des sortants. Thomas Schoner.
Pas de réelle surprise, encore moins de dégagisme. Gilles Legendre reste président de groupe. Les seconds tours étaient plutôt attendus. Le député des Landes, Lionel Causse, fait partie de ceux qui voulaient du sang neuf.
Je pense que c'est bien aussi de laisser d'autres talents, d'autres collègues qui ont des compétences, découvrir certains postes à responsabilité et qu'on aurait pu tourner de façon beaucoup plus naturelle. Bon, mais on va tourner avec les mêmes a priori, mais c'est comme ça. L'important, c'est d'avance.
91 candidats pour le premier tour, 91 candidats pour 23 postes. Preuve que beaucoup de nos collègues ont une haute estime d'eux-mêmes, rigole un député marcheur. Mais au final, inutile de renouveler pour le plaisir de renouveler. Sandrine Lefeur, députée du Finistère.
Par exemple, pour ma commission du développement durable, Barbara Pompili, c'est quelqu'un qui fait bien son job, qui est respecté par l'opposition et par sa majorité. Je vois pas pourquoi on l'aurait renouvelé dans ce cas-là.
Un jeune député estime que même si des sortants sont réélus, ils ont eu des concurrents et donc ce sera utile. Ils devront dit-il, se remettre en question. La campagne, en tout cas, s'est bien passée. Un député de l'Est assure qu'on ne lui a jamais autant dit bonjour.
Le tribunal de grande instance de Strasbourg a validé à nouveau ce matin la reprise d'Ascoval, l'aciérie de Saint-Saulve. Un doute a été soulevé sur l'avenir du site et de ses 268 salariés quand on a appris au mois de mai que le repreneur British Steel était lui-même placé en redressement judiciaire. Le nouveau plan est financé pour moitié par des banques et pour moitié par l'État et les collectivités locales. Dans les Alpes de Haute-Provence, deux avions de loisirs sont portés disparus. Il y avait trois personnes à bord. Selon la préfecture de Digne-les-Bains, les deux appareils qui avaient décollé de Barcelonnette seraient entrés en collision.
Le journal de 13h sur France Inter.
À Londres, Boris Johnson est en train de boucler la composition de son gouvernement. Theresa May quitte Downing Street sur un constat d'échec, incapable de transposer le Brexit voté il y a 3 ans dans les faits. Bonjour Antoine Gignot. La chef du... On a Antoine Gignot en ligne ?
Absolument, je vous entends très bien.
Bonjour Antoine. Bonjour. La chef du gouvernement doit s'adresser une dernière fois aux députés devant lesquels elle n'a jamais réussi à s'imposer.
Oui, elle est d'ailleurs arrivée sous les applaudissements, Theresa May, tout à l'heure, pour cette séance qui va clore 3 ans de bras de fer répétés, des tentatives à répétition pour la Première ministre de faire passer son texte sur le Brexit sans réussir à sortir de l'impasse. Elle a passé au total 1106 jours au pouvoir. C'est un tout petit peu plus que Gordon Brown, mais ça reste parmi les mandats les plus courts du Royaume-Uni. Elle va donc prononcer aussi un discours cet après-midi, la Première ministre, pour défendre son bilan en mettant l'accent sur la fin de l'austérité, sur l'équilibre budgétaire, sur la construction de logements. Pour l'instant, elle est applaudie. Elle tente de faire une dernière sortie de manière honorable.
Et justement, Antoine, est-ce qu'on a déjà une idée de la couleur du prochain gouvernement de Boris Johnson ?
Alors, il ne donnera pas les noms des ministres qui vont travailler avec lui avant le milieu d'après-midi, Boris Johnson, mais ses proches parlent d'une équipe avec le plus de diversité ethnique possible et d'une parité homme-femme. En revanche, pas de concession sur la ligne à suivre pour le Brexit. Les noms qui circulent pour l'instant, celui de Priti Patel, de David Davis ou de Jacob Rees-Mogg, sont ceux d'eurosceptiques convaincus. Départ programmé donc de tous ceux qui, dans l'ancienne équipe ne sont pas d'accord avec une sortie rapide de l'Union européenne. Si on fait le total, ils sont 22, ça risque de faire du changement.
Merci Antoine Gignot, correspondant de France Inter à Londres. Sur la sortie de l'Union européenne au 31 octobre, les discussions entre Boris Johnson et Bruxelles s'annoncent difficiles. Sur l'Iran, en revanche, Londres a le soutien de ses alliés européens. Après l'arraisonnement vendredi d'un pétrolier britannique au large du Sultanat d'Oman par les gardiens de la Révolution, une force navale européenne de protection des navires dans le détroit d'Ormuz est en train de prendre forme. Bonjour Pierre Benazet.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Bruxelles. À l'heure du Brexit, le Royaume-Uni a besoin de l'Europe.
Oui, effectivement. Alors, de son côté, le dispositif naval britannique est déjà en cours de déploiement dans le Golfe Persique pour renforcer la frégate HMS Montrose, qui se trouvait d'ailleurs vendredi à 1 heure du pétrolier Stena Impero lors de son arraisonnement. La frégate de défense aérienne HMS Duncan est déjà en renfort. Elle pourrait être rejointe par une autre, le HMS Kent. Du côté des Européens, on ignore encore quel navire serait affecté à la mission navale en préparation, même si certains pays ont déjà participé à la protection du détroit d'Ormuz, comme la France, avec la frégate La Motte-Piquet en 2012. La France veut en tout cas répondre présent. L'Allemagne ainsi que les Pays-Bas et la Norvège ont été approchés. Les règles d'engagement, c'est-à-dire les contours précis de la mission, sont en cours d'élaboration et devraient se limiter à la protection des navires. Le Royaume-Uni n'a pas précisé s'il comptait utiliser les structures militaires européennes existantes, mais pour les Britanniques, la mission doit clairement être identifiée comme battant le pavillon européen et surtout pas celui de l'OTAN. La volonté politique expresse, c'est de ne pas paraître s'associer aux États-Unis, l'objectif étant de ne pas torpiller les efforts diplomatiques européens pour maintenir à flot l'accord sur le nucléaire iranien.
Merci Pierre Benazet en direct de Bruxelles. On part sur la route du Tour de France. Le peloton s'est lancé il y a 1 heure du pont du Gard, direction Gap. Une transition avant les Alpes. Bonjour Fanny Lechevestrier.
Bonjour.
Et c'est encore la chaleur au programme.
Oui, alors que le peloton vient de passer au pied du magnifique théâtre antique d'Orange, effectivement le sujet numéro 1, cette chaleur. La moto France Inter affiche actuellement 38 degrés. On n'est pas encore au pic de la journée. Grosse chaleur ce matin avant le départ. Eh bien, le peloton multipliait les moyens pour tenter de se rafraîchir, rester le plus longtemps possible au frais. On restait bien sûr dans les bus. On mettait carrément des gilets de glace pour se maintenir au frais. On voit également beaucoup de barres, de glaçons. C'est comme ça là qu'on se rafraîchit dans le peloton. Et pour faire face à cette chaleur qui va nous accompagner jusqu'à Gap durant 200 km aujourd'hui, eh bien les organisateurs du Tour de France ont décidé d'élargir les délais entre guillemets. C'est-à-dire que voilà, le temps de hors délai ne va pas être calculé sur les tout premiers à passer à la ligne, mais sur le groupe principal qui ralliera l'arrivée. Tout cela pour éviter eh bien qu'il y ait trop de coureurs éliminés ce soir, parce qu'on s'attend avec cette forte chaleur, même si le parcours n'est pas extrêmement difficile aujourd'hui, eh bien à de grosses défaillances. Il va falloir vraiment s'hydrater, et attention dans ce cadre-là, eh bien aux favoris, on le sait, les organismes sont déjà fatigués. On va surveiller Julien Alaphilippe, le maillot jaune, déjà qui semblait hier un petit peu épuisé. Également, on va surveiller Thibaut Pinot, on le sait, il n'aime guère cette chaleur. On va voir comment l'étape va se passer. Normalement, pas de difficultés pour les favoris, mais attention avec la chaleur.
Merci Fanny Lechevestrier, avec un gilet de glace sur la moto France Inter. Au championnat du monde de natation à Gwangju, en Corée du Sud, une première médaille pour la France. Elle est en bronze pour David Aubry. Il a pris la troisième place du 800 mètres nage libre il y a quelques minutes. À 22 ans, l'élève de Philippe Lucas a battu le record de France et remporte sa première médaille mondiale. Il est devancé sur le podium par l'Italien Paltinieri et le Norvégien Christiansen.
La météo, avec les volets roulants Velux, la protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Un point canicule avec Sébastien Léas de Météo France.
La vague de chaleur se poursuit et la majeure partie du pays est placée en vigilance à la canicule. Cet après-midi, les températures vont encore monter d'un cran, grimpant entre 36 et 40 degrés en général, avec des pointes jusqu'à 41-42 degrés. Sur la façade ouest et les plages de la Méditerranée, la chaleur est un peu plus modérée, avec 31 à 36 degrés. Ambiance encore plus respirable sur l'ouest Bretagne et la pointe du Cotentin, avec 25 à 31 degrés. Côté ciel, hormis quelques bancs nuageux sans conséquence au nord de la Seine et sur le Finistère, c'est encore un soleil de plomb qui vous attend cet après-midi. Sur le relief du sud du pays, des nuages se développent à nouveau, pouvant aller jusqu'à l'averse, voire l'orage. Le risque d'averse est généralement cantonné à la montagne, mais en fin de journée, des débordements d'orage peuvent glisser de l'Auvergne vers la Bourgogne et le centre-Val de Loire.